Eh bien, chers amis, nous avons rendez-vous avec le Dieu de Daniel et avec Daniel lui-même dans le chapitre 6 du livre biblique qui porte son nom, Daniel 6, dont nous lisons et relisons de rendez-vous en rendez-vous les versets 1 à 11 ou 2 à 12, suivant les versions. Daniel chapitre 6, je lis donc pour vous à partir du verset 1er ou 2. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, gouverneurs de province de l'Empire perse, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle, solide et bien enraciné dans sa foi, incorruptible, et qu'on n'apercevait chez lui ni négligence, ni faute. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent précipitamment auprès du roi et lui parlèrent ainsi, roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, roi, confirme la défense, écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors, ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et suppliait son Dieu. Nous allons un tout petit peu en arrière, vers la fin du livre du prophète Jérémie. Jérémie, au chapitre 51, dans le cadre de 2 longs chapitres consacrés au jugement de la grande Babylone ancienne par l'Éternel. Cette partie, seconde partie du verset 50, Jérémie 51-50, une invitation, une exhortation, Jérémie 51-50, de la terre lointaine, pensez à l'Éternel, et que Jérusalem soit présente à vos cœurs. Et enfin, 2 versets de la fin du Nouveau Testament, dans la première lettre de ce vénérable vieillard, qui a une étrange ressemblance d'ailleurs par bien des côtés avec Daniel, l'apôtre Jean. Donc, premier épître de Jean, chapitre 5, les versets 14 et 15. 1 Jean 5, 14 et 15, où Dieu nous dit que nous avons auprès de lui cette assurance, terme extrêmement fort, avec une connotation de hardiesse, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Je ne m'attarderai donc pas sur le lieu ou l'endroit de la prière telle qu'il est exprimée dans Daniel 6 et dans ce verset 10 ou 11, où il est question d'une chambre supérieure. C'est ce qui nous a intéressé en particulier hier soir, l'importance d'un lieu personnel de rencontre. Avoir son lieu. Et puis quand on voyage, avoir ses lieux. Mais avoir cette préoccupation de ces lieux d'intimité par excellence pour partager beaucoup de choses avec notre Dieu. C'était donc notre thème en particulier d'hier soir, tout cela est enregistré sur cassette, ce qui nous permet d'évoquer la direction de notre vie de prière, puisqu'elle apparaît aussi dans ces deux beaux versets, 10 et 11, ou 11 et 12 de Daniel 6. Il est question de la chambre supérieure, bien sûr, mais plus particulièrement des fenêtres. Des fenêtres de la chambre supérieure qui étaient ouvertes et qui étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Il vaut la peine de creuser les Écritures. Et nous allons ce soir creuser dans une veine d'une grande richesse sur ce beau thème, puisque cette petite locution, fenêtre ouverte dans la direction de Jérusalem, évoque obligatoirement une vie de prière enracinée dans les Écritures, enracinée dans la révélation écrite de notre Dieu. Pourquoi interpréter cette petite locution de cette manière? Tout simplement parce que si nous remontons plus de 420 ans avant cette expérience difficile à vivre du vieillard Daniel, dans l'histoire du peuple d'Israël, nous arrivons à un moment crucial, à un tournant dans son existence, à quelque chose, à une réalisation après laquelle aspirait profondément le cœur d'un homme de Dieu, grand roi d'Israël, qui a passé toute une partie de sa vie à avoir le souci de voir se réaliser ce que Dieu lui avait mis sur le cœur, sans vouloir pour autant qu'il en soit le réalisateur. Je veux parler du roi David et de son successeur, Salomon, qui a donc eu pour grande tâche de réaliser la construction du temple, du premier temple qui portait son nom. Et vous savez que lorsque cette grande entreprise a été achevée, aux alentours de 960 avant Jésus-Christ, il y a eu un certain nombre de mois d'organisation, je crois une dizaine à peu près, de mois d'organisation d'un grand événement, celui de la dédicace du temple, où tout d'abord, Salomon a tenu à ouvrir son cœur devant Dieu et face au peuple dans une prière publique assez longue, mais d'une immense richesse. Et dans cette prière, qui nous est notamment rapportée dans le premier livre des Rois, au chapitre 8, nous avons les versets 46 à 50, qui sont très intéressants. Salomon, successivement, donc inspiré par le Seigneur, va évoquer toutes sortes de situations, de difficultés extrêmement variées, qui devront être autant d'invitations à la prière, à l'humiliation, au retour vers Dieu, à la réparation, au pardon. Et il y a parmi toutes ces situations évoquées successivement et prophétiquement, il y a donc la situation développé dans ces versets 46 à 50, où Dieu nous dit, par les lèvres de Salomon, « Quand ils pécheront, les membres de ton peuple Israël, contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes, dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. » S'ils reviennent à toi de tout leur cœur, de toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie, vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, fais leur droit, pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi, excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise de fer. Nous sommes donc, avons-nous dit il y a un instant, plus de 4 siècles plus tard. Et voilà donc un vieillard homme de Dieu qui se souvient et qui prend très très au sérieux cette prière de dédicace de Salomon. Et qui donc va vraiment avoir à cœur de l'appliquer à la lettre. Ce n'est pas une exception dans la vie de Daniel, puisque dans la même année, Daniel, donc toujours largement octogénaire, au chapitre 9, nous avons une date qui indique que l'événement se situe dans la même année, le vieillard Daniel va prononcer devant Dieu une prière d'humiliation et de confession, dont nous avons tout d'abord, l'introduction. La première année de Darius, je suis au verset premier, la première année de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres. qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre, je priai l'Éternel Dieu, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous arrêtons là pour le moment cette lecture, mais vous remarquez, ce moteur, cette motivation qui est à l'arrière de cette prière, dans cette lecture du rouleau de Jérémie le prophète. Il s'appuie sur les déclarations inspirées de Dieu du prophète Jérémie. Il en fait véritablement le levier de cette prière précise de sa vieillesse. Et c'est d'autant plus intéressant que, d'une part, Daniel figure dans la toute petite équipe des quelques jeunes représentant la fine fleur de la jeunesse aristocratique de Jérusalem, dont nous savons par l'historien juif Joseph du 1er siècle, qui a écrit beaucoup de choses à ce sujet, il y a des choses à prendre et à laisser, mais il n'y a aucune raison de douter d'un certain nombre de ces déclarations, que les quatre jeunes gens, ces quatre mousquetaires de Dieu du chapitre 1er, étaient de la famille, de famille royale. Ils étaient liés à la famille de Sédécias, le dernier des rois de Juda. Ils représentaient donc la fine fleur de la société à venir d'Israël et du royaume de Juda en particulier. Et c'est donc en 605 avant Jésus-Christ que ce jeune homme et ses camarades, âgés de 14 à 18 ans, grand maximum 18 ans, se sont retrouvés du jour au lendemain en déracinés, en prisonniers de guerre, exilés à quelques 1200 kilomètres de là, dans cette terre babylonienne et dans cette immense capitale, d'ailleurs en plein cours de transformation, qui allait devenir de plus en plus prestigieuse dans les années à venir. Nous sommes en 605. Nous retrouvons notre ami Daniel, donc vieillard ici, en 539-538, allez de 605 à 539-538, et vous vous rendez compte que vous approchez des 70 ans. C'est-à-dire que, d'une manière toute particulière, Daniel se sent concerné puisqu'il a été, lui, parmi ses tout premiers éléments, ses premiers acteurs, et ses premières victimes innocentes des grands bouleversements internationaux de son époque. Et il peut dire au Seigneur, en s'appuyant sur le message du prophète Jérémie, « Mais tu sais, ô Éternel, j'ai été parmi les premiers. Ça fait plus de 65 ans que ça s'est passé. » Et de surcroît, Jérémie a été un de mes conseillers spirituels. Et Jérémie, le prophète, a joué un rôle énorme dans la vie de Daniel. On peut d'ailleurs se poser la question, comment un rouleau du prophète Jérémie a pu arriver jusqu'à Daniel, qui était depuis si longtemps en terre d'exil. Mais je peux imaginer, connaissant Daniel, l'amour et la passion avec laquelle il déroulait ce message du prophète Jérémie pour en relire en particulier ces chapitres 27, 29 à peu près, là entre 25 et 30, dans lesquels, à plusieurs reprises, sur l'ordre de l'Éternel, Jérémie précise que la durée de l'exil montera jusqu'à 70 ans. Donc il peut plaider de tout son cœur, lui, qui réalise qu'il est trop âgé pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans sa propre vie. C'est-à-dire que de surcroît, il y a un caractère tellement désintéressé à sa prière. D'une part, il est peut-être l'Israélite qui a eu la meilleure conduite. C'est-à-dire que s'il avait été tant soit peu orgueilleux, il aurait pu dire, si quelqu'un n'est pas coupable de tout ce qui est arrivé, c'est bien moi. Or, loin de là, il connaît son propre cœur. Et en tant que vieillard, il sait combien tout au long de sa vie, il a eu affaire à sa propre nature, combien il a eu de combats, combien il a vécu de moments difficiles, combien il a été lui-même vulnérable, fragile, combien Dieu a dû le tenir avec grâce, une grande grâce dans sa main. Et donc, il ne peut que plaider coupable, que s'identifier à son peuple dans ce « nous », n'est-ce pas, de l'humiliation collective, nous avons été coupables. Et il le fait pour demander à Dieu d'accomplir sa promesse en disposant le cœur du peuple, pour que cette promesse puisse effectivement s'accomplir. Et quand on pense, n'est-ce pas, que c'est peut-être exactement à cette époque, très rapidement après, que Dieu va visiter le roi Cyrus, ce païen, mais qui était disposé favorablement à l'égard précisément de ceux qui avaient été emprisonnés, qui avaient été exilés, qui appartenaient à une toute autre mentalité vis-à-vis des prisonniers de guerre, etc., qui va disposer son cœur, qui va réveiller son esprit sans faire pour autant de lui un authentique croyant, parce qu'on sait très bien par une quantité de textes de la littérature profane, notamment, qu'il avait ses propres divinités, mais une grande largesse de cœur vis-à-vis des nations païennes d'alentour qui étaient sous l'autorité de son empire. Et Dieu va le visiter en réponse à la prière de Daniel. Et nous aurons, dans 2 Chroniques 36, repris dans Esdras, au chapitre 1er, le fameux décret de Cyrus, promulgué en 538, qui permettra à un premier contingent d'environ 50 000 juifs sur une population énorme. Beaucoup n'ont pas voulu partir parce qu'ils étaient bien installés dans un système qui était extrêmement intéressant sur le plan économique, un système bancaire qui était en plein développement, etc. Donc ça ne les intéressait pas tellement d'aller retrouver un pays en ruine. Mais 50 000 quand même vont se lever et vont donc rentrer à Jérusalem, et vous connaissez donc le début du livre d'Esdras. C'est tellement beau de situer cette prière du vieillard Daniel dans son cadre et de savoir que lui a peut-être vu de ses yeux ces 50 000 personnes s'ébranler pour aller rejoindre cette cité qu'il avait quittée presque 70 ans auparavant et qu'il n'allait jamais revoir. Et combien son cœur devait chanter en disant, mais Seigneur, tu es le Dieu fidèle à tes promesses. Merci pour la grâce de ces 50 000 exilés qui peuvent enfin rentrer au pays et démarrer un nouveau départ pour la nation juive. Là, il faudrait aussi prendre du temps pour souligner que si dans Daniel 6, tout comme dans Daniel 9, Ce vieillard, à la fois prophète et homme d'État, s'appuie tellement sur les Écritures qui imprègnent, qui saturent sa vie de prière. C'est aussi parce que, dès sa plus tendre enfance, Dieu l'a placé au bénéfice de sa visitation toute particulière du petit royaume de Juda. Nous avons, à cette époque, une royauté épouvantable, un règne qui va d'abord durer 55 ans, celui de Manassé, le plus abominable roi de Juda et qui de surcroît a régné le plus longtemps, ce qui n'a rien arrangé. Et qui, d'après la tradition juive, a même inauguré son règne catastrophique en ordonnant que le prophète Ésaïe, qui était le conseiller spirituel de son père, le bon roi Ézéchias, un homme de Dieu, le roi Ézéchias, qui a tenu à vivre comme peu de rois l'ont fait, en suivant le conseil des prophètes. La plupart des prophètes ont été rejetés par la royauté, pas Ézéchias. Et Ézéchias a été au bénéfice d'un ministère extraordinaire du prophète Ésaïe. Et le premier ordre, semble-t-il, que Manassé ait donné a été celui de pourchasser et d'arrêter le prophète Ésaïe. On l'a enfilé dans un tronc d'arbre, on l'a scié vivant dans le tronc d'arbre, et la tradition juive dit même qu'on l'a scié notamment au niveau de sa bouche, parce qu'il était accusé d'avoir vu Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait là une référence à la vision qui a bouleversé tout le ministère du prophète Ésaïe dans Ésaïe au chapitre 6, qui a été à la base de son message centré sur l'absolue sainteté de Dieu. 55 ans de règne. C'est devenu tellement catastrophique. Les rues de Jérusalem ont été tellement remplies de sang. Les autels les plus immondes ont tellement abondé dans cette cité. Les croyants ont été tellement persécutés que finalement, Dieu a décidé de le juger de son vivant. Et il a donc été exilé à cette époque, à Babylone, mais qui n'était pas encore entre les mains des Babyloniens mais des Assyriens. Et il a vécu un jugement extrêmement douloureux, et là, dans ses chaînes à Babylone, Manassé s'est humilié. Et son humiliation a été telle que Dieu a décidé, dans sa souveraineté, de le réintégrer, de le réinstaller sur son trône. Il l'a fait retourner sur son territoire à Jérusalem, et il a régné. Mais bien sûr, les dégâts étaient irréversibles. Et c'est ce qui fait que quand Manassé s'est éteint, son fils Amon lui a succédé pour un règne très court, je crois 2 ans de règne. Mais hélas, Amon n'a pas suivi ce qui avait été beau dans la fin du règne de son père, mais il a pris tous les mauvais plis. Et donc, ces années du règne d'Amon étaient aussi abominables, jusqu'à ce que finalement, il se fasse assassiner. Et c'est alors qu'apparaît le successeur Josias. Josias monte sur le trône, il a 8 ans. Et la tradition orale étant très forte, il y a un certain nombre de choses qu'il a retenues de l'histoire de son papa et de son grand-papa. Tout d'abord, il a eu un grand-papa qui a été assassiné. Et qui a été assassiné à cause du désordre du péché qui régnait. Il sait aussi que son grand-papa a été un homme abominable, mais qu'il s'est humilié, que Dieu lui a pardonné, qu'il a réinstallé sur le trône. Et donc, il y a dans le cœur de cet enfant de 8 ans déjà l'émergence d'une certaine pensée au sujet de la justice de Dieu, de la gravité du péché et de la manière dont le diable est cruel à l'égard de ceux qui le servent. Et c'est ce qui fait donc que, en particulier à partir de l'âge de 16 ans, le jeune Josias va vraiment commencer de manière toute personnelle à chercher l'Éternel de tout son cœur. Et il va progresser dans cette recherche si bien que, à l'âge de 20 ans, Josias va commencer à entreprendre une réforme spirituelle dans le royaume de Juda, à partir de Jérusalem, mais en allant même vers le royaume du Nord, qui est bien sûr, à certains égards, désert, puisque le royaume du Nord a été déporté, il y a un petit peu de population, très peu, mais il va faire un travail jusque vers le royaume du Nord. C'est très difficile. C'est très difficile. Jusqu'à ce que finalement, en 622 avant Jésus-Christ, alors que notre ami Josias est âgé de 26 ans, il entreprend une action de réveil, de restauration, de réforme spirituelle très pratique dans l'épicentre, dans le cœur du royaume, c'est-à-dire à Jérusalem et dans le temple. Il faut nettoyer le temple qui est devenu une véritable poubelle, un désordre indescriptible. Et donc, il lance une action de nettoyage du temple. Et c'est au cœur de cette action, et c'est quelque peu paradoxal, que l'on découvre subitement un rouleau de la loi de Moïse. Vous vous rendez compte que c'est dans le temple de l'Éternel qu'on avait égaré la loi de Moïse. Et j'ai souvent dit que c'est parfois dans nos églises qu'on égare la parole de Dieu, mes amis. Dans nos églises. Et je constate dans mon ministère que de plus en plus dans nos églises, on égare la parole de Dieu pour se contenter de toutes sortes d'autres petites friandises, mais qui sont du trompe-l'œil, de la monnaie de singe. Alors on se précipite vers les conseillers de Josias, tout d'abord, qui découvrent le contenu de ce rouleau, qui est probablement le livre du Deutéronome, parce qu'il y a des indices qui vont dans cette direction. Et ils sont bouleversés par ce qu'ils y découvrent, si bien que on remonte jusqu'à les hiérarchies suprêmes, on vient à Josias en disant, mais voilà ce qui a été découvert, ce rouleau sans doute couvert de poussière, qui peut-être même avait été caché là pour échapper à quelque part aux véritables autodafés de Manassé, lorsqu'il avait voulu absolument nettoyer tout Juda de toutes les traces de présence de l'Éternel. Alors Josias se fait lire, parcourt ce rouleau du Deutéronome, qui est un des rouleaux fondamentaux de l'Ancien Testament. Et il est bouleversé. Il devient pâle, il a le visage décomposé, parce qu'il y a notamment des prescriptions à la royauté qu'il n'a jamais pu pratiquer. Il aurait dû, en montant sur le trône, commencer lui-même par lire et écrire entièrement ce rouleau du Deutéronome. Il ne l'a pas fait. Et puis il découvre que tous les 7 ans, il faut réunir le peuple et puis lui lire aussi la totalité du rouleau. Ça n'a pas été fait à cause de tout ce désordre indescriptible depuis des dizaines d'années. Donc à quelque part, Josias a besoin de s'humilier parce qu'il participe, lui, maintenant, aux conséquences du péché de son père et de son grand-père. Et donc il envoie certains de ses conseillers vers une prophétesse dans un autre quartier de la ville de Jérusalem, la prophétesse Hulda, pour lui dire, voilà ce qui se passe, qu'est-ce que nous devons faire? Je m'humilie, je suis malheureux, je me rends compte de ma propre culpabilité, de l'état dans lequel le pays a été mis, n'est-ce pas? Il est saisi d'une conviction de péché extrêmement forte. Et heureusement, la prophétesse Hulda va lui dire de la part de Dieu un message d'encouragement à cause de son humiliation. Le jugement de Dieu va tarder. Il n'aura pas lieu de son vivant parce que Josias se sera humilié. Et ce sera un grand tournant. Il va y avoir une période de fête. On va remettre en valeur les grandes fêtes juives. Et puis, nouvelle réforme spirituelle, beaucoup plus profonde que dans le passé, dans tout le royaume de Juda et au-delà. Alors, ce qui est intéressant à cet égard, c'est de remarquer que cette période est une période d'intense activité prophétique. Il y a comme une sorte de concentration de personnages clés qui gravitent aux alentours et dans l'immédiate proximité du roi Josias, et qui vont jouer un rôle important. Et parmi ces personnages clés, vous avez précisément Jérémie. Jérémie, nous sommes en 622, Jérémie a commencé son ministère prophétique sans doute en 627, il avait une vingtaine d'années à peu près. Donc vous voyez, il est au tout début de son ministère prophétique, homme timide, jeune homme timide, mais qui va être investi d'une autorité d'en haut et de promesses qu'il sera une muraille, n'est-ce pas, fortifiée par l'Éternel pour faire face à la rébellion, au péché de Juda. Et Dieu va mettre sur le cœur de ce jeune prophète Jérémie d'être un soutien permanent pour le roi Josias. Jérémie apprécie que Josias, qui est presque du même âge que lui, ait cette attitude courageuse, commence à entreprendre des réformes, et le Seigneur lui met à cœur de le soutenir. Et tous les premiers chapitres du livre de Jérémie expriment le soutien que Jérémie apporte à Josias en donnant au peuple de Judée des messages extrêmement sévères, parce que Jérémie se rend compte d'une chose, c'est que les réformes qu'opère Josias ne touchent pas le cœur du peuple en profondeur. C'est quelque chose de formaliste, c'est extérieur. La lèpre est cachée là au fond, mais on ne veut pas changer. Et donc il va donner le coup de main qu'il faut à Josias en envoyant des électrochocs spirituels extrêmement courageux au peuple de Juda pour le déstabiliser, pour l'amener à se remettre en question et à s'humilier. Alors ça c'est Jérémie. Mais vous avez aussi le prophète Sophonie. Sophonie qui certainement est un habitant de Jérusalem, parce qu'il n'y a aucune trace de vie agricole ni quoi que ce soit, comme avec d'autres prophètes. Il habite certainement Jérusalem. Peut-être est-il même descendant du roi Ézéchias. Et c'est vraiment le prophète de la justice de Dieu, du Dieu juge. Donc, message extrêmement sévère, adressé dans les murs de Jérusalem, et donc à toute la population, où il condamne l'idolâtrie, l'anarchie, il dit, vous savez, Dieu va juger. Et il va prophétiser essentiellement entre 630 et 625. Vous voyez, nous sommes toujours dans cette même période. Vous ajoutez éventuellement le prophète Habacuc. On ne sait pas très bien quelles étaient ses fonctions. Certains pensent qu'il était un lévite, chargé notamment de toute la louange de l'Éternel dans le temple. On n'en est pas certain. Mais Habacuc, qui a prophétisé de ce qu'on connaît de son livre entre 612 et 606, certainement 607-606, était certainement déjà là dans toute cette équipe. Mais simplement, on n'a pas retenu le message qu'il apportait à cette époque. Et quand vous connaissez le contenu du petit livre d'Habacuc, c'est un joyau absolument extraordinaire. Moi, j'aime énormément Habacuc, je l'ai lu des centaines de fois, parce que c'est un homme de prière et qui nous apprend beaucoup de choses sur l'honnêteté de la prière, la nécessité d'un dialogue qui soit honnête avec Dieu, dans lequel nous sachions lui dire notre perplexité quand nous ne comprenons pas sa manière d'agir. Il se pourrait, tenez-vous bien, que le petit prophète Nahum appartienne à la même période. Vous avez la mère du roi Josias, Jedida, dont le nom est mentionné parce qu'elle a joué un rôle bénéfique auprès de son fils. Parce que dans les Écritures, c'est comme ça. Dans la vie des rois, seules les très mauvaises mères ou les mères bonnes qui ont vraiment exercé une saine influence sont mentionnées. Elle est mentionnée. Il faut croire donc qu'elle a joué un rôle particulièrement, une grande influence sur son fils. On ajoute la prophétesse Hulda. Vous vous rendez compte, l'équipe ? L'équipe d'hommes et de femmes dont le cœur était embrasé pour Dieu et qui tous avaient vécu des temps extrêmement difficiles sous l'autorité royale des prédécesseurs de Josias, qui peut-être avaient été pourchassés, avaient dû se cacher. On peut imaginer d'ailleurs ce que les parents de Daniel ont dû vivre. Parce que leurs enfants, eh bien, sont nés aussi dans cette époque, et c'est là que je voulais venir, parce que toute cette équipe de personnages va se pencher à peu près, peut-être à une année près, sur deux berceaux. Il y a deux berceaux dans le cadre de la cour royale à Jérusalem, dans lesquels deux bébés hurlent leur bonheur d'être au monde et réclament leur biberon. Ce sont deux bébés qui ont pratiquement le même âge, peut-être à quelques mois ou à une année de différence au grand maximum. Un de ces deux bébés s'appelle Daniel et l'autre bébé s'appelle Ézéchiel. Et sur leur berceau se penche un roi et des hommes et des femmes qui sont passionnés de Dieu et de sa parole. Et donc toute l'enfance de Daniel et d'Ézéchiel va baigner dans ce climat de réforme doctrinale et éthique morale à partir des Écritures sur toute la société juive à Jérusalem, en Juda et même au-delà. Et on peut, à partir de là, comprendre la qualité de vie du jeune Daniel dans Daniel au chapitre 1er. Ça n'a pas été une sorte de génération spirituelle spontanée, hein, une espèce de vertu qui démarre comme les champignons en une nuit, un homme qui découvre on ne sait où dans sa vie, dans un éclair d'héroïsme, une puissance surnaturelle qui va faire qu'il va prendre position à la cour d'un personnage impie dans un cadre idolâtre abominable et qui dit « je refuse de me souiller ». Non. Tout cela, c'est la partie émergée d'un iceberg de vie spirituelle qui s'est étoffée peu à peu dans la petite enfance, dans l'enfance et dans les débuts de l'adolescence. Et tout cela va continuer à mûrir, à se fortifier, à s'élaborer pour devenir véritablement la colonne vertébrale de cet homme de Dieu que fut Daniel, que nous retrouvons dans Daniel 6. Et le Daniel 6, c'est pour ça que je l'ai fait ce soir, c'est pas pour qu'on allonge l'étude ou quoi que ce soit, mais simplement pour que nous fassions bien le lien entre la qualité des vies du vieillard Daniel, notamment dans sa vie de prière, dans ses circonstances extrêmement difficiles, dans ce guet-apens, n'est-ce pas, dans cet acte terroriste qu'il vit octogénaire, et tout son passé. C'est toujours la même chose. C'est cette loi inexorable qui parcourt les Écritures et la vie. Je récolte ce que j'ai semé. Voilà un enfant dans la vie duquel a été semé très tôt, non seulement un enseignement biblique théorique, mais un enseignement vécu avec chaleur et passion par des hommes qui se sont mouillés courageusement. Et ça, ça fait impact sur la vie de deux bébés qui sont devenus quand même deux des hommes de Dieu qui nous ont laissé un message absolument impressionnant dans ces livres du prophète Ézéchiel et de Daniel. Donc vous voyez l'importance de cet arrière-plan et donc de cette première remarque. Notre prière doit reposer sur une base biblique solide. Quel lien y a-t-il entre notre vie de prière et la parole de Dieu? Je le dis en pensant à quelqu'un à qui j'ai dû dire hier soir pour avancer précisément ceci. Est-ce que votre vie de prière s'appuie sur la parole de Dieu? Si nous le disons, c'est précisément parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus une sorte de divorce entre notre prière et la parole de Dieu qui devrait l'inspirer. Il y a même eu des tendances évangéliques qui se sont développés au fil des deux dernières décennies et qui ont officialisé ce divorce. Je pense, par exemple, à ce serviteur de Dieu, à certains égards, qui, depuis les États-Unis, a exercé un ministère en Europe et en France en particulier, John Wimber, et dont, finalement, une partie de l'enseignement concernant notre culture d'une relation personnelle avec Dieu par la prière, notre écoute de Dieu, pouvait amener le Saint-Esprit à nous donner, nous faire des révélations qui ne s'inscrivent pas en harmonie avec les saintes écritures qui nous ont été données. Comme s'il existait une sorte de révélation continuée. Certains d'entre vous le comprennent, ça c'est la pensée du catholicisme, où la parole de Dieu n'est pas terminée avec les livres auxquels, inspirés, auxquels s'ajoutent d'ailleurs les apocryphes, mais la révélation se continue tout au long de l'histoire de l'Église par une tradition qui appartient à ce qu'on appelle le magistère de l'autorité vaticane, avec les dogmes, n'est-ce pas, ces paroles prononcées ex cathedra, c'est-à-dire dans un cadre bien précis, et qui peuvent être en contradiction avec les Écritures. Et on sait combien de dogmes se sont posés. Alors le problème, vous voyez, c'est que dans notre milieu évangélique, on en est venu à quelque part par une approche trop mystique, émotionnelle, désancrée des Écritures, à accepter que Dieu puisse nous dire de nouvelles vérités qui ne sont pas corroborées par les Écritures, pas signées par les Écritures, et que nous devons accepter comme parole de Dieu. Bien, le résultat, c'est qu'on en est arrivé à des expressions de vie très étranges dans nos églises, qui nous amènent à nous gratter la tête en demandant « Mais d'où est-ce que ça vient ? Qu'est-ce que ça fait là ? Qu'est-ce que ça a à voir avec la parole de Dieu ?» Parce qu'à partir de là, vous pouvez dire et faire n'importe quoi, vous trouverez toujours quelqu'un pour vous dire « Ah oui, mais ça, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est ce que Dieu m'a dit. » Vous n'avez plus de maître étalon, vous n'avez plus de point de repère objectif. Et cela a progressivement plongé tout un pan de l'Église de Jésus-Christ dans une sorte de désordre et de trouble, au point que de nombreux croyants aujourd'hui relativisent les Écritures, se refusent à considérer l'autorité des Écritures en matière de foi et de vie quotidienne, et sont absolument paumés, perdus, ils n'ont plus de point de repère dans leur vie, n'est-ce pas ? C'est pour cela que je tiens ce soir à beaucoup insister sur cet exemple de Daniel qui aligne sa manière de prier sur le contenu et le contenu de sa prière sur les Écritures. Et c'est pour cela que Daniel peut prier avec Ariès. Qu'est-ce qui va donner autorité à ma prière ? Qu'est-ce qui va me donner cette assurance dont j'ai besoin ? Sans tomber dans une assurance impolie et effrontée, une assurance pleine de respect, nous y reviendrons. Mais c'est le fait que je peux m'appuyer sur les déclarations d'un Dieu qui ne ment pas. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de pouvoir respectueusement dire à Dieu, mais Seigneur, tu as parlé, tu as dit des choses. Et je ne sors pas un petit extrait de verset de son contexte. Tu as dit ces choses dans un contexte général, et c'est sans sortir ces versets de leur contexte général pour éviter de leur faire dire n'importe quoi et te réclamer l'accomplissement de promesses que tu n'as pas faites. Attention, hein. De temps en temps, on vient vers moi en me disant « Mais oui, mais qu'est-ce que vous pensez de telle promesse des Écritures ? Est-ce que je dois la prendre pour moi ?» Je dis « Écoutez, regardez d'abord le contexte. » Parce que vous avez des croyants qui ont prié pendant des années pour l'accomplissement de certaines promesses sans réaliser qu'ils avaient sorti totalement la promesse de son contexte et qu'elle ne s'appliquait pas à leur situation. Alors ça, c'est de la manipulation des Écritures. Et nous devons faire attention, parce que nous risquons d'être très déçus si au fil des années, nous ne voyons pas l'accomplissement de promesses, et finalement l'ennemi en profite pour dire mais tu vois, ton Dieu, il est menteur. Et nous allons commencer à douter de Dieu. Et j'ai vu même ici en Alsace, y compris des serviteurs de Dieu, commençaient à douter de Dieu. Parce qu'ils ne voyaient pas certaines promesses s'accomplir, mais est-ce que ce sont des promesses que Dieu leur avait faites ? Est-ce qu'ils les interprétaient bien dans leur contexte ? C'est pour cela qu'il nous faut lire les Écritures d'un bout à l'autre. Pour nous pénétrer de la totalité de la révélation écrite et avoir une vue d'ensemble qui soit une vue équilibrée. Et alors on en tire le bénéfice, mais bien sûr avec les années, peu à peu, on a une vision de plus en plus globale de l'unité des Écritures, de la beauté de la pensée de Dieu, de son plan, et on est moins tenté de faire dire aux Écritures n'importe quoi. Non donc à un faux mysticisme, à une vie de prière vaporeuse, sentimentale, sans point de repère solide et fiable. C'est Adolphe Monod qui a été, on peut dire, le fondateur de ce qu'ont été les églises libres à l'origine, ces églises indépendantes du système officiel. Adolphe Monod, qui nous a laissé quelques livres délicieux, dont plusieurs sont épuisés, hélas, il a écrit ceci, « L'Écriture sainte, la parole de Dieu est le ciel parlé. La prière, selon l'Écriture, est le ciel reçu au-dedans de nous par le Saint-Esprit. Sans la parole, la prière est nulle, n'ayant pas d'aliment. Sans la prière, la parole est impuissante et ne pénètre pas dans le cœur. » Vous vous souvenez du verset, des deux versets que nous avons lus dans 1 Jean 5:14-15. Combien nous nous sommes appuyés sur ces versets, parce qu'ils sont d'une richesse extraordinaire. Nous devons prier dans la volonté de Dieu, et alors si nous prions dans la volonté de Dieu, quelle que soit la chose que nous demandons, elle nous sera accordée. Qu'est-ce qu'on a abusé de cette promesse en nous appuyant uniquement sur la seconde partie, et en négligeant la condition fondamentale qui est dans le premier verset, à savoir la nécessité de prier dans la volonté de Dieu. Or, comment est-ce que nous pouvons connaître la volonté de Dieu ? Dites-moi. Puisque la volonté de Dieu est exprimée par les Écritures. Les Écritures sont le livre qui, par excellence, nous révèle les desseins de Dieu, la volonté de Dieu, la mentalité de Dieu, comment il conçoit tant et tant de choses de la vie, n'est-ce pas ? Et de la mort, et de l'au-delà, etc., n'est-ce pas ? Celui qui se refuse à prendre le temps de pénétrer les Écritures, qui pensent pouvoir court-circuiter les Écritures, ne peut pas discerner la volonté de Dieu pour ensuite l'utiliser comme levier pour sa vie de prière. Importance donc d'une connaissance de plus en plus grande des Écritures pour une vie de prière dans laquelle j'adopte une perspective divine. Nous devons apprendre à prier dans une perspective divine. Je pense à ce jeune homme croyant qui va un jour trouver un aîné déjà d'un certain âge et peut-être même d'un âge certain pour lui demander de prier pour lui. Et lui dit, écoutez, voudriez-vous prier pour moi parce que j'ai besoin de devenir patient, j'ai un gros problème d'impatience. Alors la personne plus âgée, le croyant expérimenté, accepte et il propose que tous deux s'agenouillent, surtout pour ce genre de prière, c'était une expression de leur désir et de son désir. Et le vieillard commence à prier. Et il dit ceci dans sa prière, « Seigneur, envoie à ce jeune homme des afflictions. Envoie à ce jeune homme des afflictions le matin. Envoie-lui des afflictions l'après-midi. Envoie-lui... » Bon, et le jeune de l'arrêter, en se disant, il divague. Mais non, je vous ai demandé de prier pour la patience et non pour les afflictions. Et le vieillard de lui répondre, mais quand je lis les Écritures, je découvre que c'est par les afflictions que nous apprenons la patience. Romains chapitre 5, verset 3. Priez dans la volonté de Dieu.
Un homme de Dieu écrit ceci, l'homme de prière commence par adopter le regard de Dieu, par voir les choses et les gens tels que Dieu les voit, et à examiner leurs besoins d'après les critères célestes. Et ça, ça peut être une révolution dans notre vie de prière. J'ai ajouté ici que les psaumes, en particulier, sont un merveilleux moyen d'apprendre à prier. Et c'est vrai que plus on avance avec le Seigneur, plus les psaumes s'intègrent à notre vie. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que nous avons dans les psaumes des scanners, des radiographies absolument extraordinaires de tous nos états d'âme. Toutes les facettes, même de la complexité de notre cœur, de notre esprit, de notre âme, du tréfonds de nous-mêmes, sont mises en lumière. Qui sur la terre ne peut pas se reconnaître dans un certain nombre de psaumes ? Et il est beau justement de parcourir les psaumes parce que on pourra, en fonction de ses besoins, aller vers tel ou tel psaume pour en faire sa propre prière. Et combien de fois, dans des situations extrêmement douloureuses, Dieu m'a remis dans le cœur le tel ou tel psaume qui est devenu ma propre prière parce que je pouvais m'identifier à David, au fils de Corée ou à tel autre de ces hommes de prière pour m'adresser à Dieu. Un théologien de la fin du 19e siècle a écrit ceci: pour apprendre à bien prier, rien de tel que les psaumes. Lorsque votre cœur est plus sec qu'une rivière sans eau, que vous voulez prier et que vous n'y parvenez pas, prenez votre Bible, cherchez un psaume qui convienne à votre situation, lisez-le lentement, répétez-le en vous servant des paroles que vous prononcez pour y envelopper vos propres requêtes. Voilà plus de 35 ans que j'use ainsi des psaumes. Dans quelque état d'âme que je me sois trouvé, ils ne m'ont pas laissé sans secours. Et j'ai quand même sélectionné, après pas mal d'hésitations, parce qu'il y a tant de choses à sélectionner, certaines à retenir et d'autres à laisser, mais j'ai retrouvé ce cheminement de Roger Hawk, cet ex-otage au Liban, libéré en fin novembre 1987 après 319 jours d'angoisse. Et qui donc a raconté son histoire dans un livre qui s'intitule « J'étais otage au Liban » et très intéressant. Et j'ai retenu en particulier ce chapitre qui est une application, et il ne se rendait pas compte, mais comment Dieu l'a conduit à s'aligner sur tout ce que nous partageons ce soir. Je retiens dans un de ces chapitres quatre courts passages. Le premier soir, dans le réduit en sous-sol et sans fenêtre qui me sert de cellule, je perds les pédales. Une détresse énorme me submerge. Des idées folles me passent par la tête. Pourtant, peu à peu, il se passe quelque chose en moi. Je ressens le besoin irrépressible de communiquer avec une force supérieure, inconnue, à la fois extérieure à moi et qui, pourtant, semble émerger de l'intime de mon être. Moi, l'athée, je me retrouve à genoux et je m'adresse à un Dieu dont je ne connais que le nom. Sans savoir prier, sans connaître les mots, je demande de l'aide à ce Dieu qui, pour moi, n'est même pas un souvenir d'enfance, ma famille n'étant pas croyante. Ma démarche me surprend et me bouleverse. Autre séquence. Je suis emprisonné depuis 2 mois. Quand, par hasard, je trouve parmi les livres que me remettent mes gardiens un exemplaire de la Bible en vieil anglais. pendant ces 8 semaines, sans autre guide que ma solitude, sans en avoir pleinement conscience, j'avais déjà cheminé un peu vers la foi. J'avais pris l'habitude de prier tous les jours, avec mes mots, d'une manière sans doute très primaire. Je m'adressais à Dieu de plus en plus longuement, découvrant que si je veux qu'il m'aide, il faut d'abord que je prenne conscience de mes fautes et que je lui en demande pardon. Troisième séquence. Ma rencontre avec Dieu, le premier soir, m'a fait ouvrir la porte sur un monde que je ne connais pas. La Bible devient pour moi une boussole, une carte routière. Elle me permet de m'orienter dans mon nouvel univers, celui d'un croyant. Une question me préoccupe. Quelle est la différence entre le Dieu de l'Ancien Testament et Jésus-Christ? Quand, dans ma prière, je m'adresse au Seigneur, à qui suis-je en train de parler? Un patient déchiffrage du texte anglais m'apporte progressivement la réponse. Le Dieu de l'Ancien Testament me surprend. Il punit, laisse les hommes se massacrer pour lui. Il ne correspond pas à l'image que je me fais de lui. En arrivant au Nouveau Testament, je m'y retrouve mieux. Le Dieu dont parle Jésus-Christ me séduit. C'est un Dieu d'amour, proche de l'homme. La lecture des évangiles m'incite à retourner alors dans l'Ancien Testament et que je commence à mieux comprendre certains textes. Vont réellement m'aider pendant ma captivité. Et il évoque certains de ces textes. Dernière séquence. Mais les textes les plus importants pour moi pendant mes 319 jours de détention seront les psaumes de David. J'apprends par cœur ces poèmes dont la beauté m'apaise. Au moment d'angoisse et d'incertitude, je me les récite. Et il cite, « Si tu te tournes vers le Seigneur, il te protégera de ses ailes. La flèche qui vole à travers la nuit ne t'atteindra pas. Dieu est comme le Père qui pardonne à son Fils. » Autant de phrases à jamais gravées dans ma mémoire. Démonstration de cette conduite par le Saint-Esprit qui colle toujours avec ce que j'ose appeler le schéma de la pensée de Dieu que nous sommes en train de développer ce soir en relation avec la prière. Alors disons-le, bon nombre de nos prières, trop souvent, sont mal fondées. Parfois répréhensibles, parce qu'il y a dans les Écritures des prières répréhensibles, y compris des prières d'hommes de Dieu qui étaient de grands conducteurs, tout simplement parce qu'elles sont en opposition à la parole de Dieu. J'ai relevé dans un journal britannique du 23 juin 1978 une prière prononcée par un évêque anglican, celui de Winchester, qui suggère donc que cette prière pourrait être prononcée après un avortement provoqué. La voici en partie. Entre tes mains, nous remettons la vie en voie de développement que nous avons interrompue. Considère avec compassion la décision que nous avons prise et donne-nous l'assurance dans toutes nos incertitudes que ton amour à notre égard ne changera jamais. Cette prière respire le malaise d'une conscience troublée. Mais nous ne sommes pas au bout de nos découvertes. Dans ce passage de Daniel 6, 10 et 11, 11 et 12 est beau. Deuxième suggestion forte d'une approche de ce texte, où elle est toute simple. Nous l'avons remarqué dans Jérémie 51, verset 50. Le cœur de Daniel. Le cœur de Daniel n'est pas à Babylone. Le cœur de Daniel est à Jérusalem. Quand il prie, son cœur n'est pas à Babylone, mais à Jérusalem. Et plus précisément, dans Jérusalem, sur la colline du temple, du sanctuaire qui est alors dévasté. Et si le cœur du vieillard Daniel est à Jérusalem, sur cette colline, tourné dans la direction du temple, selon la prière de dédicace de Salomon, cela veut dire que le temple suggère à Daniel trois éléments importants à prendre en compte dans la vie de prière. Parce qu'on ne peut pas, quand on pense au temple de Jérusalem, en particulier au temple, au premier temple de Salomon, on ne peut pas ne pas immédiatement penser à trois éléments importants. Et je suis absolument convaincu que le vieillard Daniel avait en mémoire et caressé dans son cœur cette triple pensée qui alimentait sa vie de prière. Premièrement, on ne peut pas penser au temple sans penser à la gloire de Dieu. On ne peut pas penser au temple sans penser à la gloire de Dieu. À cette gloire de Dieu qui avait d'abord rempli le tabernacle, ce sanctuaire transportable pendant les pérégrinations d'une quarantaine d'années au désert. Quand l'œuvre fut achevée et que Moïse a obéi dans les moindres détails à la révélation de Dieu concernant la construction du tabernacle, Dieu a mis son sceau en le marquant de sa présence sensible. C'est la fin du livre de l'Exode dans le chapitre 40 et dans les versets 34 à 38. Mais alors, lors de l'inauguration donc du temple et de la prière de dédicace, dans 2 Chroniques, chapitre 5, versets 11 à 14, juste avant cette fameuse prière de dédicace, 2 Chroniques 5, 11 à 14, nous avons un texte impressionnant. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, tous les lévites qui étaient chantres, Asaph, Eman, Jedutun, les trois directeurs de chorale, qui étaient musiciens également, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes, des harpes, et avaient auprès de 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde ou sa bienveillance ou sa fidélité ou son amour constant, le terme le plus riche pour parler du caractère de l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament, traduit de diverses manières, il est bon, sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Et nous avons au chapitre 7, versets 1 à 3, après la prière. Donc toute la prière de dédicace de Salomon est encadrée par la manifestation de la gloire de Dieu. Lorsque Salomon, chapitre 7, versets 1 et suivant, eut achevé de prier, Le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, adorèrent, louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Comment voulez-vous qu'un vieillard comme Daniel, qui était tellement passionné de Dieu pendant des dizaines d'années, qui avait vu tant d'interventions de Dieu, qui avait vécu là au cœur de Jérusalem, n'est-ce pas ? Toute son enfance et son adolescence, qui avait vécu toute cette réforme, tout ce réveil, qui avait vécu entouré d'aînés tellement délicieux dans le Seigneur. Comment voulez-vous qu'il puisse prier à Babylone en oubliant la gloire de l'Éternel se manifester dans le sanctuaire ? C'est pas possible. Cet homme de Dieu dont j'ai beaucoup aimé le ministère et un certain nombre de ses écrits, Tozer a écrit notamment ceci. Trop souvent, nous venons dans la présence de Dieu comme nous allons au supermarché, avec une longue liste de tout ce que nous aimerions. Dans sa grâce, Dieu répond souvent à nos demandes, mais il doit être bien déçu parce qu'il n'est plus pour nous que le pourvoyeur de nos désirs. Même le Seigneur Jésus est présenté trop souvent dans l'évangélisation comme quelqu'un qui répond à nos besoins. Ce qui est vrai, mais il est bien plus que cela. Et voyez-vous, dans sa situation difficile, en orientant son regard par cette fenêtre ouverte au symbole de sa communion avec Dieu, dans la direction de Jérusalem du Temple, le soutien de Daniel dans sa situation difficile était précisément dans sa contemplation de la gloire de Dieu. Et avant d'évoquer quelque peu la gloire de Dieu, j'ai sous les yeux deux textes de cet homme qui était tellement théocentrique, centré sur la personne de Dieu, qui partait dans sa vie de Dieu pour aller vers les êtres, les situations, les hommes et sa propre personne. Spurgeon, que nous avons cité hier, et qui a vécu des situations difficiles, qui a dû prendre position courageusement dans l'évolution spirituelle de son époque, parce qu'il a dû se séparer aussi de théologie qui s'éloignait des Écritures, et ça lui a coûté cher. Et il a écrit tout d'abord ceci. Il y a dans la contemplation de la divinité avec un D majuscule quelque chose qui élève l'âme à un extraordinaire degré. C'est un sujet si vaste que nos pensées se perdent dans son immensité, si profond que notre orgueil se noie dans cet infini. Nous pouvons embrasser et étreindre les autres sujets. Nous en tirons une certaine satisfaction et nous poursuivons notre route avec cette pensée « Voyez comme je suis savant ». Mais lorsque nous abordons cette science des sciences, découvrant que notre sonde n'en peut atteindre le fond et que notre regard le plus aigu n'en peut mesurer la hauteur, nous nous arrêtons saisis de respect en nous écriant « Je ne suis né que d'hier, je ne sais rien ». Mais en même temps qu'elle humilie notre esprit, cette étude de la divinité le déploie et l'étend. Rien ne saurait élargir l'intelligence et dilater l'âme de l'homme comme l'exploration fervente, assidue et persévérante du grandiose sujet qu'est la divinité. Au matin du 7 janvier 1855, Spurgeon est âgé de 20 ans. Il est dans sa cinquième année de vie avec Jésus-Christ, puisqu'il s'est tourné vers Christ dans sa 15e année. Et il écrit ceci. Voudriez-vous oublier vos chagrins, abandonner vos soucis? Alors plongez-vous en Dieu, comme en une mer profonde. Perdez-vous dans son immensité. Vous en ressortirez reposé, rafraîchi, plein d'une nouvelle vigueur. Je ne connais rien qui puisse autant réconforter l'âme, rien qui puisse si bien calmer les assauts du chagrin et de la douleur, rien qui puisse avec autant d'efficacité parler de paix au vent déchaîné de l'épreuve qu'une méditation fervente centrée sur la personne de Dieu. Vous ne croyez pas que ça devait être extraordinaire pour un vieillard qui, pendant des dizaines d'années, avait cultivé une contemplation de Dieu, avait vu Dieu intervenir tant et tant de fois dans les situations difficiles de son exil, avec ses si lourdes responsabilités, face à des collègues si difficiles, à un patron qui avait droit de vie ou de mort sur lui. Vous ne croyez pas que dans cette situation d'acte de terrorisme à son égard, face aux assauts du chagrin qui pouvaient éventuellement le submerger et de peur et d'angoisse, la contemplation de la gloire de Dieu à travers cette manière tellement concrète, pédagogique d'une fenêtre ouverte vers Jérusalem et son temple était un soutien absolument extraordinaire. La gloire de Dieu. Ce terme présent 155 fois dans l'Ancien Testament, 144 dans le Nouveau Testament. Un terme qui désignait à l'origine ce qui est pesant et par extension ce qui est sensible, perceptible, considérable, notable. Kabod. C'est ce mot qui évoque la densité, la lourdeur, la surabondance, la richesse, la puissance, l'éminence. Dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines du caractère. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et je suis frappé de constater combien les hommes de Dieu, dans les prières de la Bible, ont généralement, dans leur situation difficile, non pas commencé à parler de leurs problèmes à Dieu, ils ont toujours commencé par dresser un court portrait du Dieu de gloire. Voilà qui devrait bouleverser notre vie de prière. Et là, faites des recherches. Allez dans Esdras 9, dans 2 Chroniques 20, dans Daniel 9 précisément, nous sommes au cœur du livre de Daniel. Daniel 9, comment commence-t-il sa prière d'humiliation? Seigneur, Dieu grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Il commence par là. Il commence par se rappeler les dimensions essentielles de la gloire de Dieu. Le poids de Dieu, la pesanteur de Dieu, l'éminence de Dieu, la magnificence de Dieu en matière de puissance, de majesté, de souveraineté. Et puis tout de suite après, la beauté, la magnificence de la gloire de Dieu, la pesanteur de Dieu dans le domaine de la grâce. Et cela, vous le verrez dans Jérémie 32, vous verrez le prophète Jérémie dans une situation très difficile alors que les armées de Jérusalem campent en bordure de Babylone, campent en bordure de Jérusalem et l'assiègent, alors qu'elles occupent son petit village natal à quelques lieues de Jérusalem, à Anatote. et que de lui dire, ton oncle va venir te voir et il va te proposer d'acheter un champ à Anatote en terre qui est maintenant occupée, piétinée par l'ennemi, et tu le feras. Et Jérémie, dans cette obéissance qui était la caractéristique de sa vie, va obéir dans sa perplexité. Et on va assister dans Jérémie 32 à cette tractation, à cette signature, je dirais, devant notaire, avec le rouleau cacheté, écrit à l'extérieur, à l'intérieur, enfin, etc., etc., n'est-ce pas? Et puis il s'adresse à Dieu. Et il commence dans sa perplexité, non pas par lui dire, Seigneur, je suis perplexe, j'ai des problèmes avec toi. Non, il rappelle à Dieu qui il est. Et c'est sur la base de ce rappel qu'il appuie tout le reste de sa prière personnelle en lui posant des questions. Si bien que Dieu va honorer cette manière de prier, puisque quand Dieu lui répond, qu'est-ce qu'il fait ? Dieu lui répond en reprenant la première partie de sa prière dans laquelle il décrit la puissance de Dieu dont le bras n'est pas trop court. Il dit oui, bien effectivement, Jérémie, tu as raison. Tu as eu raison de commencer ta prière ainsi, en disant que mon bras n'est pas trop court. Je te le redis, mon bras n'est pas trop court. Et c'est parce que mon bras n'est pas trop court que je t'ai fait faire un acte de foi qui peut apparaître comme un acte de folie. Parce qu'effectivement, Anatote, un jour, sera libéré de Babylone. Mais simplement, il faut que ta vie s'inscrive dans le long terme. Parce que c'est ça la foi. Elle ne voit pas simplement jusqu'au bout de son nez, elle se projette dans l'avenir de Dieu parce que Dieu est fidèle à ses promesses. Alors, faites cette analyse dans ces différents passages que j'ai évoqués, 2 Chroniques 20, 5 à 7, Néhémie 9, 5 à 6, Jérémie 32, 17 à 27. Importance d'une vision juste de Dieu. Alors là, le livre de Daniel nous place aux premières loges. Puisqu'il est par excellence le livre qui exalte la gloire de Dieu dans sa souveraineté, dans sa puissance, dans son contrôle sur les événements. Et même dans Daniel 6, nous allons avoir une confession bouleversante qui est le résultat du rayonnement spirituel de ce vieillard. Mais dans la confession d'un roi païen, Darius. Puisque dans la fin de Daniel 6, à partir du verset 25, nous avons cette lettre, ce décret officiel de Darius. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, c'est-à-dire dans cet immense empire, n'est-ce pas ? Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit, sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Et puis vous avez alors, comme en préfiguration, en annonce de cette prière écho, vous avez la prière du jeune Daniel lorsqu'il était âgé d'une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, n'est-ce pas? Dans Daniel au chapitre 2 et dans les versets 17 à 23, dans cette suite de la réunion du GBU de Babylone, hein, où on n'a pas simplement discuté philo, hein, mais où on s'est agenouillé, où on a prié ensemble pour demander l'intervention de Dieu. Et au verset 19, il est dit que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il y avait une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. Ils risquaient d'être exécutés dans les heures, dans les jours qui suivaient, n'est-ce pas ? Le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel, le jeune Daniel, hein, 20 ans, Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, c'est-à-dire la personne de Dieu dans son caractère et dans ses œuvres, d'éternité en éternité, car à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. La lumière demeure avec lui. Ô Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, ce que tu nous as révélé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Vous vous rendez compte? La vision d'un jeune de 20 ans, dans une situation de déracinement, loin de tout ce qui faisait les délices de sa vie, loin du temple, loin de la cour, loin de sa famille, loin de ses camarades, arraché dans l'adolescence, à l'heure la plus cruciale peut-être de la vie, parce qu'elle prépare tout un avenir, et qu'il a à 20 ans, vit déjà de tout ce qui a été développé et cultivé à partir de sa petite enfance, dans ce cadre que nous avons vu tout à l'heure. Il a déjà une vision tellement belle et juste de la gloire de Dieu. Est-ce que notre prière est théocentrique? Est-ce que nous avons à cœur d'imprégner notre vie de prière d'une vision biblique de Dieu que nous allons cultiver, développer de plus en plus, parce que c'est elle qui détermine, d'une part, notre qualité de vie, la transformation de nos pensées, de nos mentalités, et notre attitude devant les circonstances de la vie, notre analyse de la situation d'aujourd'hui, notre évaluation de la politique de notre temps, de la géopolitique internationale, comme de la politique de notre cité, de notre gouvernement. Tout dépend de la vision que nous avons de Dieu. Et ça, ça change la prière. Quand vous pouvez imprégner votre prière de ce matériau divin, votre prière vit parce que Dieu est un Dieu vivant. Alors nous allons nous arrêter là, mais nous devrons revenir pour dire encore quelques mots sur cet aspect tellement important parce qu'il saute aux yeux dans le livre de Daniel et dans les Écritures. Et à partir de là, nous développerons les deux autres aspects de ce regard tourné vers le temple, au-delà de la gloire de Dieu. Il y a deux autres dimensions qui ne pouvaient qu'être présentes dans la pensée de Daniel, vieillard en prière, et qui ont été son soutien, qui l'ont aidé à persévérer face au guet-apens, à l'hostilité, à ce qu'il risquait, malgré la fragilité de la vieillesse, n'est-ce pas? Parce qu'il s'appuyait sur son Seigneur. Nous voulons prier. Seigneur, merci, parce que c'est vrai que chaque fois que nous nous penchons sur ta parole, chaque fois que nous entrons dans la contemplation de ta personne, dans ce que nous pouvons en appréhender avec nos faibles moyens humains, mais éclairés, illuminés par ton esprit, nous sommes bouleversés intérieurement. Nous ne pouvons pas rester indifférents. Et nous te bénissons de ce qu'il t'est plu, d'illuminer les yeux de notre cœur, d'éclairer notre intelligence obscurcie par le péché, totalement dévoyée, pour nous accorder ces révélations vivantes de ta beauté, de la gloire de ta personne, de la beauté de ton Fils bien-aimé. Seigneur, fais-en dans nos vies le matériau de notre prière. Donne-nous d'être moins centrés sur nous-mêmes quand nous te prions, et de ne pas venir simplement à toi toujours en tant que quémandeur, demandeur, mais aussi, Seigneur, d'abord pour te contempler, pour te dire notre amour, pour t'adorer, pour en quelque sorte te décrire avec les mots des Écritures, et pour aspirer à mieux te connaître. Seigneur, fais-le dans chacune de nos vies, pour que nous puissions, dans nos situations de souffrance, dans ces épreuves qui nous dépassent parfois, que nous ne comprenons pas, dans ces apparentes injustices de la vie, que nous puissions pourtant tenir ferme, posés sur la révélation de ta personne. Accompagne-nous, Seigneur, ce soir, lorsque nous passerons, comme jadis le faisait Marie, ce que nous avons partagé, lorsque nous le passerons et repasserons dans notre cœur, pour que cela y laisse une marque indélébile et que notre vie en soit enrichie jusque dans l'éternité. Nous t'aimons et te bénissons en Jésus-Christ. Amen.